Nous avons entamé un temps de partage sur cette thématique. Élie était un homme de même nature que nous. C'est le troisième message et il y en a encore quelques-uns que nous allons partager brièvement pour nous amener à réaliser que le Seigneur veut se manifester par chacun d'entre nous et que chacun d'entre nous, nous sommes un instrument entre les mains de Dieu. Amen. Certes, Élisée a vécu des choses incroyables, Élie a vécu des choses incroyables, Moïse a vécu des choses incroyables, mais nous aussi, nous avons à vivre des choses incroyables, n'est-ce pas? Et ça serait dommageable de passer à côté de ce que le Seigneur nous demande. Alors, j'aimerais ce soir vous inviter à faire une lecture en 1 Roi, chapitre 17, à partir du verset 17 à 24. 1 Roi, chapitre 17, à partir du verset 17. Le texte dit: après ces événements, le fils de la femme, maîtresse de la maison, tomba malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Elle dit alors à Élie: qu'ai-je à faire avec toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de ma faute et pour me faire pour faire mourir mon fils? Il lui répondit: donne-moi ton fils. Il le prit du sein de la main de la femme, le monta dans la chambre haute où il habitait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit: Éternel, mon Dieu, est-ce que tu causerais du mal même à cette veuve dont je suis l'hôte en faisant mourir son fils? Il s'étendit trois fois de tout son long sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit: Éternel, mon Dieu, je t'en prie que le souffle de cet enfant revienne en lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie. Le souffle de l'enfant revint en lui et il reprit vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère. Et il dit: vois, ton fils est vivant. La femme dit à Élie: maintenant je reconnais que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Amen. On a vu comment Dieu a conduit Élie à devoir prendre position face à un roi qui s'était détourné de Dieu, face à un peuple qui s'était éloigné de Dieu pour suivre d'autres idoles. On a vu comment Élie a été amené à aller auprès d'un torrent où là, il y avait des corbeaux qui lui ramenaient à manger. Jusqu'au moment où Dieu lui dit: maintenant, c'est bon, c'est fini, tu vas aller vers une veuve et c'est elle qui va te nourrir. La semaine dernière, on a vu de quelle manière miraculeuse Dieu a permis que cette veuve, alors qu'elle n'avait pas grand-chose, elle puisse trouver un moyen de vivre, elle, son enfant, et de nourrir même cet homme, ce serviteur de Dieu. Et là, on est face à une situation qui vient d'un coup, en plus, s'ajouter. L'enfant de cette femme meurt d'une manière violente, rapide. Il n'y a pas de transition, c'est fulgurant, c'est sans appel. L'enfant meurt. Et on voit que dans ce temps, dans cette période que Élie passe dans la maison de cette femme alors qu'il est à la chambre haute, là où lui il prie, où lui il invoque l'Éternel, où lui il est attaché à Dieu, cette femme, elle est certainement travaillée dans son cœur et dans son âme. Elle doit être certainement dans tout un ensemble de questionnements personnels au point de venir vers Élie et lui dire: mais écoute, est-ce que tu es venu là en effet pour me remettre en question par rapport à mon péché? Certainement, cette femme était reprise dans son cœur. Et la première réaction, c'est de dire: voilà, à cause de mon péché, Dieu m'enlève mon fils. Est-ce que c'est pour cela que tu es venu? On a eu un espoir, une lueur d'espoir en disant on était prêt à mourir et là maintenant, finalement, on était prêt à vivre. Et d'un coup, mon fils, il meurt. C'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? C'est moi qui suis fautif, pas l'enfant. Et on peut imaginer toutes les questions et toutes, je dirais, les craintes, mais aussi le souvenir de la faute, la culpabilité qui est remontée dans le cœur de cette femme. Cette culpabilité qui vient au cœur de chacun quand nous passons par un moment difficile où nous avons l'impression de pas réussir à comprendre les raisons de cette épreuve. N'est-ce pas? On culpabilise. On se dit: qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Ok, d'accord, j'ai péché, mais qui n'a pas péché? On a tous péché, n'est-ce pas? Et je suis parfois attristé de voir qu'on peut avec facilité, je dirais, dira, c'est à cause de ci, c'est à cause de cela. Moi, je me dis, Seigneur, aide-nous à ne pas juger, aide-nous plutôt à prier. Et quelle qu'il soit la faute, Seigneur, aide-nous à pardonner. Dans le livre des Galates, au chapitre 3, verset 22, dans la version Semeur, j'ai pris ce texte, il dit, l'humanité entière se trouve prisonnière de sa culpabilité. Lisez bien. L'humanité entière se trouve prisonnière de sa culpabilité devant Dieu, afin que le don promis par Dieu soit accordé aux croyants au moyen de leur foi en Jésus-Christ. Notre présence au milieu du monde, elle a une raison bien précise. La parole de Dieu dit que nous sommes un parfum de vie pour ceux qui sont vivants, un parfum de mort pour ceux qui sont morts. Pourquoi? Parce que, à quelque part, nous sommes le témoignage vivant que nous pouvons encore aujourd'hui nous approcher de Dieu. Et pour tous ceux et celles qui acceptent de s'approcher du Seigneur, forcément, ils se réjouissent. On se réjouit de se retrouver ensemble. Mais pour ceux qui n'aiment pas le Seigneur, pour ceux qui ne veulent pas du Seigneur, à quelque part, notre présence est un peu comme une forme de poing qui les accuse. Ce n'est pas du tout notre désir, notre volonté, mais voici, l'humanité entière se trouve prisonnière de sa culpabilité. Qui peut libérer les prisonniers? C'est Jésus. Et nous connaissons ce Jésus. Et en lisant ce texte, je me suis rendu compte de l'attitude, de la bonne attitude, de la sagesse d'Élie. Qu'est-ce qu'il fait, Élie? Élie ne commence pas à faire sortir des arguments. Il ne va pas répondre à cette femme. Il aurait pu lui donner des réponses. Non, il lui dit, donne-moi ton fils. Et il prend l'enfant et il monte dans la chambre haute où il habitait et il le couche sur le lit et puis il invoque l'Éternel, donne-moi ton fils. Il se charge, il s'approprie du fardeau de cette femme. Et notre temps de prière, il est là aussi pour nous apprendre à nous charger du fardeau des autres. C'est facile de venir vers quelqu'un qui est dans la souffrance et lui dire, tu sais, tu devrais, tu pourrais. Ah, si tu faisais. Mais Élie, ce n'est pas ce qu'il fera, il va se charger du fardeau. Ce n'est pas le temps de discuter, c'est le temps de prier. Alléluia! Alors sachons-nous aussi, frères et sœurs, apprendre à prendre ce recul et à dire pas grand-chose. Vous savez, parfois on ne trouve pas les mots, hein, heureusement. Parce que parfois on parle à tort et à travers. C'est mieux ne rien dire. C'est mieux avoir cette attitude de dire, écoute, donne-moi ton fardeau, sera le mien, je serai avec toi. Pleure avec celui qui pleure, réjouis-toi avec celui qui se réjouit. Mais là, il est le temps de travailler à genoux devant le Seigneur. Deuxième chose, il monta dans la chambre haute. Élie avait une chambre haute et il l'occupait. Est-ce qu'on a une chambre haute? Est-ce qu'on a un endroit dans lequel on se trouve, dans lequel on a l'habitude d'être dans la présence du Seigneur? Est-ce qu'on a un moment personnel? Je dirais même un lieu personnel dans lequel on se isole de tout le reste, où le reste ne vient plus nous déranger parce qu'on est avec Dieu. Et rien doit pouvoir venir nous embêter. Moi, je ne vois pas Élie recevoir des coups de téléphone à ce moment-là. Je ne vois pas Élie répondre aux emails. Non. Quel était le sujet pour Élie? L'enfant. Et il place son cœur dans ce temps de prière. Il le coucha sur son lit. Il ne s'est pas donné du repos. Élie, il a installé cet enfant sur ce lit. Il ne s'est pas donné du repos. Il fallait que Dieu intervienne. Il fallait que Dieu agisse. Alors certes, on peut évoquer encore la manière. Mais cette manière, elle appartient à Élie, à cette situation bien précise. On ne peut pas reprendre la méthode et dire « ça marche comme ça ». Ce n'est pas comme ça que ça marche. Je crois qu'il faut la sagesse de Dieu, mais ce que nous pouvons faire tous, et nous sommes tous appelés à faire, c'est invoquer l'Éternel. On n'est pas là pour faire comme Élie, comme Moïse, comme Joseph, non! Mais nous sommes tous appelés par contre à invoquer l'Éternel. Et c'est ce que Élie a fait, faire appel à Dieu pour les autres. Il s'étendit trois fois sur l'enfant et après il a prié, il a élevé cette prière. Où en effet il a demandé à Dieu, redonne la vie. La vie appelle la vie. Est-ce que nous sommes des chrétiens vivants? Ou est-ce que nous sommes des chrétiens morts? Ah, ça pourrait vous dire, ah ben, qu'est-ce qu'il nous raconte ce soir? Est-ce qu'on est vivant? Est-ce que nos tripes sont prises quand on entend quelqu'un dans la souffrance? Ou est-ce qu'on arrive à passer à un autre sujet sans problème? Presque à se dire, c'est pas mon souci, débrouille-toi, moi tout va bien, alléluia. À oublier que la souffrance, elle n'est pas loin de nous. Est-ce qu'on est des chrétiens vivants parce qu'on est encore animé de Saint-Esprit? Est-ce qu'on est encore embrasé du feu de l'Esprit? Ou est-ce que nous sommes devenus des braises qui s'éteignent? Quand on en arrive là, on dit que le feu s'éteint. Il ne donne plus de chaleur. Il y a peut-être encore un peu de lueur, mais c'est de brève durée. Oui, certes, si on met un peu de cendre, il peut tenir encore un peu, mais il a fini, c'est terminé. Alors que dans la prière, on est là et on continue à mettre du bois pour que ça chauffe, pour que notre cœur continue à briller, à chauffer, parce que nous savons qui nous avons cru. Et en effet, Élie ne s'arrêtera pas à une prière, il continue tant que Dieu ne lui a pas donné cette grâce. C'est magnifique de voir le Seigneur agir et intervenir en un instant, n'est-ce pas? Mais je me rappelle d'une visite. Ah, je ne peux pas l'oublier, cette visite. J'étais en visite chez un couple, et pendant qu'on discutait, cet homme se lève, et d'un coup, on entend un grand boum. Alors qu'il se rendait aux toilettes, cet homme, il est tombé raide par terre. Il a tapé tellement fort avec sa tête, il y avait du sang qui coulait de sa tête. On est arrivé en courant, on entend le bruit. Et on a été amené directement à dire, Seigneur, fais revenir la vie en lui, en santé, son âme partir. Et on a continué pendant quelques minutes et finalement cet homme, il est revenu. Et en revenant, il nous dit, je me suis vu partir. Je me suis vu partir. Mais Dieu a fait grâce. Cette maison, elle venait déjà de vivre un deuil. Là, un deuxième, même pas une semaine, ça aurait été trop dur. Et Dieu est intervenu parce qu'il est un Dieu de grâce. Et je crois que quand nous sommes enfants de Dieu vivants, nous appelons à la vie. Amen. Même si tout ce qui est autour de nous pourrait nous sembler mort, mais nous sommes appelés à la vie. Nous sommes une semence de vie, n'est-ce pas? Porteurs de vie. Messager de vie. D'ailleurs, qu'est-ce qui va se passer? L'enfant, il revient à la vie. Trois fois, il a prié. Faire preuve de persévérance face à ceux qui nous semblent un échec. Parfois, on est tenté de baisser les bras. On a prié une fois, deux fois, ça n'a pas marché. Tant pis, c'est pas grave. Seigneur, répond seulement aux autres. C'est faux. Seigneur, que le souffle revienne, faire appel à la vie de Dieu. Et après, il dit le texte qu'il descendit de la chambre haute. Ah, quand on vit des choses pareilles, c'est difficile de revenir, excusez-moi, avec les pieds sur terre. Hein. Non? C'est tellement magnifique qu'il aurait pu rester dans la chambre haute. Et il y a commencé à louer en langue. Hein. Mais il y avait autre chose à faire. Et il fallait revenir vers cette femme. Et il dit le texte, il est revenu avec l'enfant. Il dit, vois, ton fils est vivant. Alléluia! C'est là la réponse de Dieu. Élie, il n'avait pas besoin de répondre avant parce que la réponse de Dieu, elle est là. Ton fils est vivant. Alléluia. La réponse de Dieu et non pas la nôtre. Vous vous rappelez la question de la femme, verset 18? Qu'est-ce qu'elle posera comme question? Au verset 18, il nous dit, « Qu'ai-je à faire avec toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour me rappeler le souvenir de ma faute et pour faire mourir mon fils ?» La réponse de Dieu, elle est là. Non, je suis venu pour me révéler à toi. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle dira à cette femme? Maintenant, je reconnais que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Peut-être qu'elle avait rencontré d'autres personnes qui s'étaient dit eux aussi hommes de Dieu, mais dont la vérité n'était pas là. Et ce qui devra nous amener à être reconnus, c'est la parole de la vérité, pas le reste. Le reste, excusez-moi, c'est secondaire. Et ce n'est pas parce qu'on présente une étiquette que forcément on l'est, non ? Ou je me trompe ? Il est question pour nous de dire, Seigneur, donne-nous d'être reconnus dans ce monde comme enfants de Dieu parce qu'on porte la vérité par des actes vrais, n'est-ce pas ? Par des paroles de vérité. Et alors ce soir, nous avons l'occasion de vivre des actes vrais. Et ce soir, nous avons encore la possibilité de prononcer des paroles de vérité. C'est pour cela qu'on est là pour prier. Autrement, on n'aurait pas besoin d'être là. Nous aussi, frères et sœurs, nous avons des sujets qu'on pourrait se dire, c'est terminé, il n'y a plus rien à faire, mais moi je crois dans le Dieu de vie. Et tant que Dieu n'a pas dit stop, il faut continuer à mener le combat. Dieu est souverain. Dieu est souverain. On va incliner nos têtes. Mais nous aussi encore ce soir, nous voulons nous approcher de Dieu. Nous voulons encore prier ensemble. Nous voulons encore dire au Seigneur, nous avons besoin de ton secours. Seigneur, tu ne permettras pas que le témoignage de ton Église soit entaché. Seigneur, tu ne nous as pas amenés dans cette ville, Seigneur, pour seulement être, Seigneur, quelque chose qui reprend les consciences. Mais nous voulons être aussi messagers de la vérité, de cette vérité qui produit la vie, Seigneur. Alors nous te prions pour cette ville, Seigneur. Nous te prions pour nos quartiers. Nous te prions, Seigneur, encore pour nos foyers, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, pour ces couples dont l'un des deux est encore inconverti. Seigneur, touche son cœur, Seigneur. Seigneur, là où les enfants se sont écartés, éloignés de toi, Seigneur, touche leur cœur, Seigneur. Ramène-les à la vie de l'Esprit, Seigneur. Ô Éternel, nous nous attendons à toi pour tous les sujets, Seigneur. Tous les fardeaux qui sont sur notre cœur, qu'ils soient les nôtres ou ceux des autres, Seigneur, peu importe, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, les prendre à bras-le-corps, en sachant que nous pouvons les déposer devant toi et que toi, tu as une solution, Seigneur. Sois loué, Seigneur, pour l'exemple, Seigneur, qui nous est donné par ta parole. Et donne-nous d'être exemplaires. Donne-nous, Seigneur, dans ce pays, d'être des hommes et des femmes exemplaires à l'image de cet homme de Dieu. Que nous puissions, nous aussi, Seigneur, par ta grâce, par ta miséricorde, être des hommes et des femmes de prière, Seigneur. Reconnus comme être ceux qui appartiennent au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Être ceux qui proclament des paroles de vérité, la parole de l'Éternel. Ô Seigneur, tu n'es pas là pour décevoir les hommes, tu es là pour les sauver. Et nous le confessons, au nom précieux de Jésus-Christ. Amen.